Alors j'ai le plaisir d'ouvrir ce café scientifique. Mesdames et messieurs, présents ici dans cette salle, mais aussi, mesdames et messieurs, présents derrière votre petit écran chez vous, car des gens nous regardent en direct grâce à Internet, bienvenue à ce premier café scientifique connecté. Il va être question des MOOCs pour Massive Online Open Courses, c'est-à-dire les cours en ligne ouverts et gratuits. Et bien sûr que pour parler de ce phénomène, il fallait se mettre à la page, d'où cette première pour un café scientifique avec ce webinar pour séminaire sur le web qui est organisé avec le soutien de la communauté du savoir, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de l'Arc Jurassien qu'on remercie de ce coup de pouce technologique. Une trentaine de personnes nous suivent en ce moment derrière leur petit écran via Internet. Elles pourront réagir et poser des questions aux intervenants qui sont ici. Et justement, les intervenants, qui sont-ils pour ce premier café scientifique de la rentrée? Alors, tout à côté de moi, M. Pascal Pachou. Il est directeur opérationnel de la FCUE, formation continue de l'Université de Lausanne et de l'EPFL, une fondation qui regroupe les offres de ces deux hautes écoles. À côté de lui, M. Yves Moreau, ingénieur en technologie de la formation au SUEL, service universitaire e-learning de l'Université de Lyon. Il est aussi un des responsables de la plateforme pédagogique Moodle et il est aussi docteur en histoire. À côté de lui, Jean-Jacques Aubert, vice-recteur enseignement de l'Université de Neuchâtel, professeur de philologie classique et d'histoire ancienne à l'Institut d'Histoire et depuis 2012, vice-président de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales. À ses côtés, Pascal Felbert, qui est le directeur de l'informatique de l'Université de Neuchâtel, à qui on posera peut-être des questions sur la sécurité, la fiabilité, on verra. Et à côté de lui, Aliou Tambandiang, un web journaliste, étudiant en géographie à l'Université de Neuchâtel et auteur d'un tout récent article sur l'enseignement supérieur en Afrique subsaharienne avec l'Université virtuelle africaine dont il nous parlera. Et on verra avec lui que il y a des régions où la question des MOOCs, des cours en ligne, se pose très différemment que dans les pays, on va dire, favorisés. Alors, messieurs, vous l'avez compris, les participants et les auditeurs vont être pendus à vos lèvres, mais aussi derrière leur petit écran. Et comme ce café scientifique se veut plus interactif que jamais, je vous propose, pour donner du rythme et prouver à tout le monde votre concision, un premier tour de table express. Pour une prise de température, j'aimerais que vous donniez à l'assistance et aux spectateurs du web, sur une échelle de 1 à 10, votre regard, votre appréciation, votre cote de sympathie par rapport aux MOOCs. 1, vous détestez. 10, vous êtes un inconditionnel. On commence par vous, M. Pachou.
Disons 8,5.
8,5. À côté de vous, M. Moreau.
4.
Beaucoup plus critique, 4, d'accord.
8.
8 aussi pour Jean-Jacques Aubert.
5.
5. Et Aliou Tambandiang
9.
Et 9.
Ouais.
Donc on a un 4. Alors je propose qu'on commence par la note 4. Monsieur Yves Moreau, on a dit que vous êtes quand même responsable d'une plateforme, en tout cas au niveau technique, de Moodle. Vous êtes ingénieur en technologie de la formation et vous mettez votre impression c'est 4. Donc vous êtes plutôt anti-MOOC.
Alors je ne suis pas anti-MOOC. je suis critique à l'égard du MOOC en tant que dispositif e-learning. Alors, moi, pour moi, c'est mon avis personnel, ça n'engage pas les institutions dans lesquelles j'appartiens, puisque les institutions avec lesquelles je travaille, on va lancer des MOOC, justement. Donc, en fait, mon appréciation va évoluer au cours de l'année qui va arriver en fonction de la mise en place de ces MOOC. Non, ce que je voudrais dire, c'est que les MOOC, c'est une sorte de miroir aux alouettes. En fait, tout le monde s'extasie devant les MOOC, mais lorsqu'il s'agit d'en faire, alors là, c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre qu'on ne le pense. Donc ce n'est pas une innovation comme on pourrait le penser. Premièrement, parce que c'est une continuation par d'autres moyens de cours à distance. Donc les cours à distance ont été créés au 19e siècle, je le rappelle, en Angleterre. Donc ce n'est pas du tout une nouveauté, c'est simplement un dispositif qui effectivement est ancien par ce qu'il propose, mais au niveau des dispositifs techniques, il y a peut-être deux innovations, c'est vrai, c'est la massification des cours par rapport à l'enseignement à distance, et c'est les nouvelles formes de pédagogie qui sont mises en œuvre pour faire un MOOC. Donc c'est déjà ce que je peux dire dans un premier temps. Peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre.
Oui, alors vous avez donné la note de 4. On entend votre pas réticence, mais votre prudence. Hein, on va le faire, mais allons-y sur la pointe des pieds. Monsieur Pachou, vous avez dit 8, c'est juste ?
J'ai dit 8,5.
8,5, donc c'est un bel enthousiasme.
Donc, juste pour m'inscrire un peu dans la continuité de ce qu'a dit Monsieur Moreau, c'est vrai que les MOOC, eux, s'inscrivent dans la continuité du développement des formations en ligne. Et c'est une nouvelle possibilité qui est donnée par la technologie, mais c'est pas une révolution. Moi, si j'ai mis une bonne note, c'est que je pense que les MOOC permettent de remplir un certain nombre d'objectifs. Les universités peuvent avoir des objectifs qui varient, mais ça peut aider à développer une réputation, une visibilité. Ça peut permettre de s'engager en matière d'innovation pédagogique, de tester de nouveaux formats d'enseignement. Ça peut permettre de contribuer au développement de ressources qui sont ensuite mises à disposition d'un public très très large. Venant moi-même du domaine de la formation continue, les MOOC présentent un intérêt certain pour la formation continue, que ce soit offert en tant que MOOC ou combiné avec d'autres éléments. C'est aussi une ressource très intéressante pour, au fait, en tant que complément à des cours qui sont donnés sur le campus.
Donc c'est un 8,5 plutôt comme outil parallèle ou complémentaire.
Tout à fait.
Tout à fait. Alors, Monsieur Aubert, je ne me souviens plus la note que vous avez donnée, donc rappelez-la nous.
J'ai aussi donné un 8, et c'est un 8 que je qualifierais de politique. Dans le mandat d'objectif que le Grand Conseil va donner probablement à l'université dans quelques semaines, un des mandats stipule que nous devons faire une étude sur les MOOC et leur utilité dans une institution comme la nôtre. Et je trouve qu'il faut aborder un tel mandat avec un certain optimisme. Donc je mets un 8 pour cette raison.
Alors à côté de vous, on va voir si M. Pascal Felbert, qui est directeur de l'Institut d'informatique de l'Université d'Angèle, doit partager cette vision politique ou est-ce que...
Je suis assez ambivalent, à vrai dire. Une partie de moi est très positive, l'autre est plutôt, sceptique. Mm-hmm. Je suis vraiment très favorable au niveau du potentiel des MOOC. Alors, on a parlé de la formation continue. On va parler certainement de l'ouverture à des étudiants qui viennent de régions défavorisées, qui n'ont peut-être pas les moyens ou la possibilité de suivre des cours dans les universités. Donc ça, c'est un potentiel qui est clair. Je suis un petit peu sceptique, j'ai l'impression qu'on vend les MOOC comme étant une solution à tous les problèmes, que ça va faire disparaître l'université, c'est pas possible. On a des statistiques qui montrent que le niveau de suivi des MOOC est très très faible, que finalement peu de gens complètent complètement un cours, voire regardent un cours en entier, hein, une seule session, et j'ai pas l'impression que ça va remplacer un suivi individuel. Un autre aspect qui me froisse un petit peu, vous avez dit l'introduction, je pense que c'était un lapsus, que c'était en français des cours en ligne ouverts et gratuits. Il y a un aspect commercialisation qui existe dans les MOOC. Il y a beaucoup de MOOC qui sont, en fait, c'est des plateformes qui sont payantes, soit au niveau du cours qui est donné, soit au niveau de la valorisation, de la validation des titres. Et j'ai l'impression que les personnes qui développent ces plateformes ne sont pas uniquement des personnes qui font ça par altruisme.
Dans un premier temps, c'est vrai que la démarche était vraiment de proposer du savoir gratuitement, mais très vite, c'est devenu, avec des sommes modestes, mais ça devient très vite, on ne va pas dire le mot business, mais quand même, on s'oriente vers ça. Alors, le dernier intervenant, M. Aliou Tambandiang.
Merci.
Vous avez mis une excellente note. Vous
êtes... Oui.
Expliquez-nous pourquoi.
Bon, moi aussi, j'ai donné une bonne note parce que, effectivement, moi, comme ça fait maintenant quelques années que je travaille avec les journaux en ligne, alors, je suis vraiment un peu mesuré l'importance de l'Internet dans le monde actuellement. Parce que moi, j'ai vu que les universités ne peuvent pas ignorer ce méthode d'enseignement-là parce que c'est plus dynamique. Et ça permet aussi aux universités de pouvoir un peu vendre leurs produits un peu à l'extérieur. Donc on peut être là, par exemple, à Neuchâtel et dispenser des cours ailleurs dans le monde. Et ça vraiment, c'est un avantage certain pour les universités. Mais il y a aussi le fait que vraiment, ça sera des cours, c'est-à-dire massifs. Mm-hmm. C'est-à-dire ça va intéresser beaucoup de gens, donc les gens surtout qui n'ont pas les moyens, mais aussi et surtout les gens qui sont occupés. Donc, tout le monde peut venir maintenant, avec les cours en ligne, étudier à l'université. Donc il n'y aura plus de contraintes de temps, ainsi de suite. Et aussi, c'est vraiment économique en somme, les cours en ligne.
Ouais. Donc, vous y voyez une ouverture pour plus de monde au savoir.
Oui.
Et puis, vous avez dit, c'est bien que l'université, par exemple, de Châtel puisse, en guillemets, vendre. La dimension marketing, affairiste, commercial, ça ne vous dérange pas, ça ? Que le savoir devienne une monnaie un peu...
Non, c'est-à-dire, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire, par exemple, il y a des universités qui ont des formations... qui n'existent pas ailleurs, ou bien qui sont très difficiles à accéder quoi, ailleurs. Donc maintenant, si vraiment on peut rester chez soi et suivre cette formation-là à distance, donc je parle de ce sens-là, c'est-à-dire que ça peut quand même aider aux gens de suivre les formations qu'ils souhaitent ou qu'ils peuvent se trouver dans le monde. C'est ça.
Je vous remercie. On va passer très vite aux interventions du public et je suis obligé de traverser la salle pour m'approcher de l'écran où... On peut dire aux gens qui nous regardent, qui peuvent poser des questions, qu'on transmettra ici à nos intervenants. Mais pour commencer, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a déjà une question sur les MOOC ? Je vais regarder si on a une question. Il y a un commentaire de la part d'Alexandre qui met un 7,5. On verra si la note change à la fin du débat. Ça peut être intéressant que vous ayez une note à l'esprit, puis qu'à la fin de ce café scientifique, vous nous disiez si vous avez modifié votre perception, y compris les intervenants. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment en ligne. Alors, est-ce qu'il y a des questions ici, dans la salle ? S'il n'y a pas de questions, on me fait signe qu'il y en a une qui vient de tomber. Donc, peut-être est-ce le rôle des universités, des milieux académiques, de veiller à ce que les MOOC ne soient pas exploités dans une logique commerciale, mais bien dans le but de transmettre un savoir et des connaissances ? Alors, je ne sais pas lequel des intervenants veut s'exprimer en premier, mais c'est vrai que, est-ce que ce n'est pas la responsabilité des universités de maîtriser leur savoir et de ne pas en faire un outil commercial, mais on sait en même temps que les universités sont placées dans une situation de plus en plus de concurrence. Alors, je ne sais pas, M. Aubert, peut-être, est-ce que l'Université de Châtel peut créer des MOOC en veillant à ce qu'ils restent gratuits ?
Alors, il y a deux problèmes, n'est-ce pas ? Le premier problème, c'est de savoir si on crée des MOOC ou si on les utilise en les achetant à l'extérieur. Je pense qu'il faut adopter une position claire. Créer des MOOC... ça coûte très cher. Ça, je crois que tout le monde le dira. Enfin, il y a des spécialistes dans cette salle. Ça coûte très cher. Est-ce que des universités ont envie d'investir dans la création de MOOC sans... C'est aussi une entreprise risquée, parce qu'on ne sait pas du tout quel va être le succès commercial, comme avec tout autre produit. Maintenant, pour l'utilisation des MOOCs, à mon avis, c'est peut-être la gratuité qui est le plus grand problème. Du moment que c'est payé, la concurrence qu'un MOOC peut faire avec d'autres formes d'enseignement est moindre. C'est le jour où on pourra obtenir l'illusion d'un enseignement complet et gratuit à travers des MOOC plutôt qu'un enseignement, disons, coûteux à la collectivité ou à l'institution. Eh bien là, on aura peut-être un problème puisque le critère pédagogique ne sera pas, peut-être pas le critère prépondérant.
Alors, Monsieur Pachou, pour ce qui est de l'UNIL et de l'EPFL, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a, je crois, 7 cours en ligne qui vont être lancés ces prochaines semaines, ces prochains mois. Il y en a 14 qui sont déjà en cours. Ça fait 21 pour l'EPFL. Il y en a 3 pour l'UNIL via Coursera. Mais Coursera, c'est plus de 400 cours en ligne. Alors, est-ce que, quand on dit EPFL et UNIL de Lausanne, c'est pas gigantesque, mais c'est pas tout petit non plus. Est-ce qu'il n'y a pas déjà là, au niveau de la concurrence entre universités, une différence qui est impossible à combler? Les grosses universités auront de toute façon la mainmise sur les cours en ligne.
Ben, je pense, je dirais pas forcément, dans le sens que en se positionnant au travers d'un partenariat, par exemple, avec Coursera ou edX, c'est aussi un moyen, je dirais, de faire partie du club qui développe ce type de ressources et qui le met à disposition. Ça permet, disons, un rayonnement pour certains professeurs dans certaines disciplines qu'on n'aurait pas forcément par d'autres moyens. Je le vois comme ça.
Monsieur Moreau, sur le contrôle du coût des cours, l'éventuelle gratuité, quel est votre regard ?
Alors,
vous allez expérimenter
déjà donc un cours MOOC, le coût de fabrication d'un cours MOOC est estimé à 2 à 3 fois supérieur à un cours normal. Donc c'est une estimation qui était faite par une journaliste, Christine Veufray. Quant à la gratuité, vous me disiez des MOOC.
Est-ce que c'est à l'Université de Lyon de vérifier que ces cours restent accessibles ou alors gratuits ?
Alors, d'avoir la justement, maîtrise du le coup. Problème des MOOC, c'est que le modèle économique des MOOC n'est pas encore défini. Donc, il y a plusieurs, on va dire, solutions qui sont envisagées. Donc, soit les cours sont effectivement gratuits et on fait payer la certification, ou en tout cas la diplomation du MOOC, ça veut dire l'examen final qui va valider les compétences ou les connaissances acquises lors du cours. Soit on part vers une dimension davantage publicitaire, donc avec des pubs qui s'afficheraient dans les
MOOC. En parallèle, là, d'accord.
Voilà. Donc,
là, il n'y a pas des questions un petit peu.
Alors, l'Université de Lyon, là-dedans, bonne question. Bah, justement, c'est une question sur laquelle on est en train de réfléchir, en tout cas pour l'université à laquelle j'appartiens, l'Université Lyon 3, puisqu'on va créer deux MOOC. Et pour l'instant, on n'a pas encore envisagé justement de faire payer en tout cas les participants, puisque on est dans une démarche expérimentale encore. Donc, dans un premier temps, on va rendre ces MOOC gratuits, et dans un second temps, donc dans une deuxième année, on fera sans doute payer la certification.
Vous savez que ça c'est très mal perçu par certains qui disent voilà, on met gratuit un moment, puis après on fait payer. Mais bref. On a des réactions qui nous viennent d'Internet, de Aurore. Pour ma part, je suis plutôt favorable. Cela permet d'offrir un complément aux formations classiques, par exemple. Un commentaire de Marc Brio. Je suis favorable aussi pour l'ouverture vers le plus grand nombre, sans contrainte d'échelle. Et une question de Didier. Les MOOC sont-ils une alternative au manque de place qui peut exister dans les amphithéâtres, dans les salles? Alors là, je me tourne vers Aliou Tambandiang. C'est ce qui fait le succès notamment de l'université virtuelle africaine.
Oui.
Pour vous, c'est une solution?
Oui, effectivement, parce que le problème des effectifs dans les universités, bon, peut-être ça ne se pose pas beaucoup ici, mais c'est un problème vraiment qui est d'actualité chez nous, bon, dans les pays africains beaucoup, parce qu'avec cette notion d'université nationale, donc il y a un problème d'effectifs. Les universités ne parviennent plus à accueillir cette masse d'étudiants, de bacheliers qui viennent chaque année. Donc il va falloir effectivement trouver des solutions, parce que les jeunes qui ont le bac aussi, il va falloir qu'ils aillent à l'université. Donc l'État est obligé de trouver des solutions le plus rapidement possible. Et c'est ainsi que l'UVA, l'Université virtuelle africaine, a été mise sur pied et financée, aidée par la Banque africaine de développement. Ça, c'est pour sauver le système, parce que les universités sont saturées, donc avec l'enseignement en ligne, effectivement, il y aura de la place pour des gens qui peuvent rester chez eux, suivre les cours en même temps que ceux qui sont dans les facultés.
Si je caricature un petit peu, ici on a le luxe de pouvoir dire c'est bien, c'est pas bien. Ouais. En Afrique, vous n'avez pas le choix, il faut les faire.
Oui, parce que c'est pas peut-être... c'est-à-dire qu'il faut réagir. Oui. Il faut réagir dans l'urgence. Dans l'urgence, quoi. Et l'urgence, c'est effectivement les cours en ligne.
Pour donner un chiffre que vous avez publié dans votre article, il y a déjà 219 modules qui sont proposés par l'Université virtuelle africaine, qui sont accessibles dans 142 pays en trois langues, hein, français, portugais, anglais.
Et l'anglais,
voilà, bien sûr. Donc voilà. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui souhaite poser une question à nos intervenants sur cette question des MOOC? Moi, j'ai une question. Je vais regarder. Excellente question. Et à l'inverse, certains amphithéâtres sont vides. Les MOOC pourraient-ils servir de produit d'appel? Ah, alors est-ce que ça peut faire la promo pour les cours d'université? Un MOOC qui serait excellent et très suivi, est-ce que ça peut être un produit d'appel pour dire, regardez, on a tel professeur ou tel cours qui est de pointe? Je vois que Monsieur Moreau... Monsieur Pachou, pardon, allez-y.
Oui, je crois que c'est tout à fait le cas. Et l'Université de Londres, qui était très active dans le domaine, a sorti, je crois, l'année dernière, une étude où ils montraient que ça avait réellement eu un impact sur leur recrutement, notamment pour des programmes de maîtrise ou autre.
Donc là, on retombe un peu dans la stratégie marketing et les concurrences entre universités. J'ai une question. On dit oui. Alors, une question dans la salle.
Oui, merci. Une question. Vous avez été plusieurs à relever la dimension d'innovation pédagogique des MOOC. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus au niveau des innovations pédagogiques que permettrait cet outil, mais aussi des limites au niveau pédagogique de ce type d'outil?
Alors, peut-être Monsieur Aubert ou Monsieur Moreau qui se lançait. Monsieur Aubert d'abord et Monsieur Moreau après.
Oui, donc comme je disais au début, à l'université de Neuchâtel, nous en sommes un peu au balbutiement, mais je dirais que j'ai eu la chance de faire du MOOC sans le savoir il y a quelques années, et puis de pratiquer un usage privé et professionnel des cours en ligne qui étaient offerts dans un cadre universitaire américain. Et je dois dire que, évidemment, on peut faire des tas de choses avec des MOOC, n'est-ce pas ? La version zéro, c'est de remplacer la lecture d'un livre par la visualisation ou l'audition d'un cours qui dure, en l'occurrence, 48 fois 30 minutes. Mais je dirais que le transfert de connaissances, il n'est pas très différent, surtout s'il est limité à l'audio, à la lecture d'un livre. C'est simplement qu'on fait appel à un autre sens pour le transfert de connaissances. Du moment qu'on a affaire à un DVD, et puis qu'on a le contrôle sur le rythme du DVD, et puis qu'on peut bénéficier de l'investissement fait par la compagnie qui produit le MOOC, qui veut quand même dire qu'on ne filme pas n'importe quoi, mais on attend des professeurs qui sont relativement bien payés aux États-Unis pour produire un MOOC. Le chiffre qu'on m'avait articulé, c'était 30 000 dollars pour produire 48 fois 30 minutes dans un domaine qui était le domaine de prédilection et de spécialisation du professeur. Par rapport à un salaire universitaire américain, ce n'est pas négligeable. Donc ça veut dire que derrière ce salaire, il y a une attente pédagogique, et c'est vrai qu'on voit la mise en œuvre de moyens visuels, parfois même de moyens audiovisuels, qui sont particuliers, qu'un professeur moyen ne peut simplement pas convoquer dans un enseignement de type universitaire classique, par manque de temps, par manque de moyens, parfois. Et de ce point de vue-là, on peut se dire qu'il y a peut-être un plus. Maintenant, évidemment, toutes les personnes qui envisagent les MOOC les envisagent aussi dans une combinaison de différents types d'enseignement. Eh bien, ben là, il faut aussi voir ce qui est à disposition dans certains domaines. Nous commençons le semestre. Je donne un séminaire sur la Cité de Dieu d'Augustin. Je me suis dit, c'est une bonne occasion pour faire du MOOC. Eh bien, je ne suis pas gâté sur le marché mondial en matière de MOOC sur la Cité de Dieu d'Augustin. Et pour cause, voilà.
Merci, M. Aubert. M. Moreau, on parle là des défis pédagogique, des innovations que ça peut provoquer, mais aussi quelque chose de critique, c'est la standardisation. Les gens disent, mais ces MOOC, au fond, si 10 000 étudiants suivent le même MOOC, c'est 10 000 fois formaté, 10 000 fois la même chose, ça ferme plutôt que d'ouvrir.
C'est justement l'un des problèmes, pour en revenir justement à la pédagogie, c'est qu'un enseignant seul fait cours à 10 000 ou 50 000 personnes. C'est énorme. Donc, comme on est dans un cours à distance, moi, je prends. Il y a plusieurs cas de figure, mais par exemple, si dans un amphi de 400 personnes, il y a 5 ou 6 personnes qui viennent à la fin solliciter un prof pour avoir une référence, un conseil, etc., qu'est-ce que c'est pour 10 000 personnes ou 50 000 personnes ? Comment l'enseignant peut-il gérer cette masse d'étudiants, d'apprenants en tout cas, qui le sollicitent ? L'autre aspect pédagogique, c'est justement. C'est là où il faut réfléchir. On ne fait pas cours dans un MOOC comme on fait cours à un amphi. Donc c'est quelque chose qu'il faut penser en amont, donc par une scénarisation, puisque les cours se déroulent sur plusieurs semaines. On sait qu'il y a un taux de déperdition très important au niveau des participants. On arrive à des taux, taux d'achèvement de MOOC de 10% à 4% selon les cas. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et l'autre aspect, c'est au niveau de la pédagogie elle-même. Donc, est-ce qu'on fait une pédagogie de type traditionnel, donc transmissif, avec un magistère et un enseignement horizontal des connaissances, ou est-ce que l'enseignant devient un animateur de communauté, donc où justement on gère une communauté de tuteurs qui va animer la communauté d'apprenants, et ensuite les retours se feront en fonction de ses tuteurs vers l'enseignant.
Ça, c'est déjà MOOC 1.02.
Alors ça, c'est le MOOC 2.0. Alors c'est un MOOC qui est très, très en vogue actuellement en France. Donc les apologistes des MOOC veulent que ce soit ces MOOC qu'on appelle connectivistes. Donc là, ça pose des problèmes puisque le corps enseignant français n'est pas du tout prêt, je pense, à ce genre d'innovation pédagogique. Et là, je ne parle pas des moyens, je parle vraiment de la pédagogie en tant que telle.
Sur cette question de standardisation, M. Felbert, je vous ai vu sourire.
je voulais juste aller dans le même sens. Le problème de, disons du suivi des étudiants, pour moi, c'est un problème très important. Je discutais avec des collègues de l'EPFL qui ont réalisé un MOOC. Ils me disaient qu'en termes de suivi, en termes de correction des devoirs des étudiants, c'était énorme. Il y a certaines choses qu'on peut automatiser, mais d'autres pas, même dans les branches scientifiques. Et je ne parle pas des branches littéraires où on doit rendre des travaux et vérifier que le travail est fait correctement. Imaginez qu'un professeur doit déjà corriger une centaine de copies, c'est énorme. Si c'est des milliers ou des dizaines de milliers, c'est absolument ingérable. Donc on se demande dans quelle mesure, finalement, on peut avoir une vraie validation du travail qui a été effectué. C'est aussi pour ça que certains modèles de COUF ont payé la validation du titre plutôt que le cours lui-même.
Par rapport à ce que disait M. Aubert sur les sommes qui sont versées aux professeurs américains qui créent des MOOC, c'est peut-être aussi parce qu'il y a le revers de la médaille, c'est toutes les questions qui viennent après et tout le travail qui est en parallèle, non ?
Il faut quand même ajouter quand même un point, c'est que certains MOOC qui sont dans le commerce sont comme un DVD, on le vend, mais on ne produit pas d'un service à l'avant, c'est-à-dire le consommateur est laissé à lui-même, donc il n'y a pas de validation, il y a simplement un transfert de savoir qui peut être après ça valorisé dans le cadre d'une institution. Moi, c'est plutôt comme ça que je comprends le MOOC, c'est comme un complément, tout comme un livre, tout comme un autre instrument, plutôt qu'un ersatz pour un enseignement de type traditionnel.
Oui, Monsieur Pachou.
Donc moi j'abonde dans le sens que c'est un complément, et puis juste pour donner une illustration, il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent se faire, même pour les étudiants qui sont sur le campus, avec l'utilisation de MOOC. Bon, un terme dont on parle beaucoup maintenant, c'est celui de la classe inversée ou de la flipped classroom. C'est-à-dire que si on regarde un professeur à l'heure actuelle, régulièrement, chaque année, il va faire un certain nombre de présentations. Lorsqu'on a un grand nombre d'étudiants, on tombera facilement dans des présentations ex cathedra, où il n'y a pas forcément tous les échanges qu'on peut imaginer. L'utilisation d'un MOOC permet de transmettre ce savoir-là sur un mode transmissif avant la rencontre avec les étudiants, le temps passé avec les étudiants pouvant se concentrer beaucoup plus sur des échanges ou des discussions constructives de cas.
Pour la boutade, mais pas que, on parle beaucoup de MOOC. Le titre de ce café scientifique, c'est « Faut-il faire la moue au MOOC ?» C'est un jeu de mots. Le mot n'est pas très sexy en français. Alors on a interpellé les internautes en leur disant « Connaissez-vous l'appellation, pour l'instant, la plus répandue, la plus usuelle en français des MOOC ?» Et puis on a un internaute qui s'appelle Vincent, qui a fait sourire notre modérateur Igor et qui a proposé « Quid des SPOC pour Small Private Online Classes ?» Les SPOC. Et puis, il y a Vincent Trécoire qui vient de donner, c'est le même, je crois, il a donné la bonne réponse. C'est l'appellation qui est admise pour l'instant, c'est FLOT, pas comme flot de savoir, mais comme formation en ligne ouverte à tous. Voilà, pour ce qui est des interventions des internautes, il y a une remarque qui est venue d'Aurore qui dit « Ce qu'on peut reprocher au MOOC, c'est ce qu'on vient d'aborder, mais on va peut-être essayer d'aller un peu plus loin, c'est peut-être l'accompagnement de l'étudiant dans le suivi de son apprentissage. Quelles solutions pouvons-nous y apporter ?» Alors, M. Moreau a évoqué les groupes, le travail en connectivité. M. Felbert, vous, est-ce que vous y croyez ? Vous avez dit que c'était un peu la confrontation, vous avez entendu la difficulté de vos collègues de l'EPFL. Ils vous ont dit que c'est ça qui est difficile. Est-ce que vous croyez à une communauté, un groupe d'étudiants qui interagiraient avec vous ou entre eux ? Non ? Je vois non.
Peut-être, mais il faut que les personnes... Donc, si on a un système avec des tuteurs intermédiaires, il faut qu'il y ait quand même un suivi et un contrôle de la qualité du cours jusqu'en bas. Je pense que c'est effectivement une approche. Et puis, ce qui a été dit par rapport au MOOC comme un complément, je pense que c'est aussi une bonne manière d'utiliser les MOOC. Toujours est-il qu'il y a quand même une rencontre physique qui se fait avec le professeur. Mais l'approche connectiviste, je ne la connais pas très bien, mais je pense que c'est l'évolution naturelle du système.
Mais il lui faudrait des garde-fous, effectivement, pour éviter que tout à coup un faux savoir ou une désinformation circule dans le réseau d'étudiants et que le professeur doit venir après corriger après coup. Enfin, bref. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle, des questions qui surgiraient parmi vous ? Oui ?
Je voulais juste revenir à l'intervention de Pascal Felbert. J'ai discuté avec un informaticien qui était plus optimiste concernant l'évaluation des MOOC. Il l'a comparé au travail de diagnostic automatisé en médecine. Parce que pour vraiment évaluer un MOOC, il faut constamment tester les étudiants en ligne. Et on peut établir des statistiques très intéressantes. Combien de fois un étudiant lit les textes, combien de temps il passe vraiment à travailler sur un certain sujet. Ce qui permet de vraiment perfectionner ces cours. Ce qu'on ne peut pas faire quand on a 50 étudiants dans une salle. Quand on a 10 000 étudiants, tous en ligne, on peut établir faire un diagnostic beaucoup plus précis de la matière qu'on enseigne.
Y compris optimiser la façon.
Donc optimiser la façon dont on prépare le cours et on enseigne ce cours.
Ça, c'est peut-être une des innovations qui pourrait découler des MOOCs.
Oui,
ou des flottes.
Je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'approches maintenant qui sont développées pour faire une automatisation du suivi. Alors, ça peut être effectivement sur des vérifications de la présence de l'étudiant. On peut avoir des petits quiz qui apparaissent régulièrement. On peut regarder si l'étudiant arrive à suivre à un certain rythme. On peut faire des examens, des exercices qui sont automatisés. Alors, moi, je viens de l'informatique, donc je connais bien le problème de l'informatique. Il y a des systèmes qui sont mis en place, dont certains les PFL, qui permettent aux étudiants de faire le rendu, qui va ensuite être testé automatiquement sur les serveurs là-bas à l'EPFL, validé, et on a une acceptation du résultat, s'il est correct ou pas. Mais c'est quand même énormément de travail. Et il y a certaines disciplines où ça s'y prête moins. Des disciplines où les réponses ne sont pas une question à choix multiples, mais sont des réponses à élaborer. Et là, je ne sais pas si la technologie existe pour faire un suivi automatique en ligne.
Merci. Merci Monsieur Weber. Il y a une question d'un monsieur dans la salle. On va lui passer un micro. Voilà. Je vais aller de votre côté.
Oui, bonsoir. Je remercie les intervenants pour les contributions extrêmement intéressantes pour lancer le débat qu'ils ont déjà fait. Une question que je me pose, c'est de savoir si le débat qu'on est en train d'avoir ce soir sur est-ce que c'est une option ou pas est le bon débat à avoir. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui est en mouvement, qui est là, qui est en train d'évoluer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec des variantes extrêmement différentes. Ça a déjà montré, hein, en fait, entre la variante zéro, telle que Jean-Jacques Aubert l'a qualifié, qui est celle simplement d'un disque qu'on peut se passer le soir si on a envie, à l'interaction absolue, ça je peux vous dire que c'est quelque chose qui existe déjà, hein, les communautés de correction, etc., ça se fait beaucoup. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que notre débat est tout à fait actuel ? Et j'aimerais vous livrer peut-être deux ou trois réflexions plus concrètes. Donc la première, c'est la peur du marketing. Le marketing est quelque chose qui existe, on est dans un système qui est extrêmement compétitif, mais maintenant la philosophie européenne continentale n'est pas celle de faire beaucoup d'argent avec l'université, contrairement à des pratiques plus anglo-saxonnes. La question est une autre pour les universités européennes, je dirais, c'est celle de la présence. C'est est-ce qu'on arrive à exister en fait en dehors des frontières de l'Europe ? Et derrière cette question-là, il y a en fait une question de qualité, parce que c'est le deuxième point que vous abordiez tout à l'heure, comment garantir la qualité. Au fond, il y a quelque chose qui s'appelle le public qui est là. Si vous pensez à Wikipédia, par exemple, où on a beaucoup dit au départ, ça c'est n'importe quoi, parce que n'importe qui peut écrire un peu ce qu'il veut. La réalité a démontré par la suite que ce qui se trouve dans Wikipédia est au moins d'une qualité identique, si ce n'est meilleure, à ce qu'on trouve dans des encyclopédies écrites. Et le corollaire de ça, là le mot-clé c'est celui de la formation continue, c'est que quand on met un cours en ligne, on s'expose en tant qu'enseignant et on se livre en fait aussi à cette forme de la vérification de la qualité qui ne peut, et ça c'est mon affirmation, mais je serais très content d'avoir votre opinion sur ça, qui ne peut qu'augmenter au fond la qualité, la compétitivité en termes de qualité d'une institution de recherche.
Donc une saine pression.
Oui, ça certainement, oui. Alors, c'est pas la même chose, évidemment, si on est confronté à 5 étudiants dans un séminaire ou à 40 000 internautes.
Il y a une intervention qui nous vient d'Internet qui va un peu dans ce sens-là, qui dit « Les MOOC et l'enseignement 2.0 mettent le doigt sur la nouvelle posture de l'enseignant. » C'est aussi un des défis des MOOC, c'est qu'il y a une nouvelle situation, un nouveau défi à relever. Je ne sais pas, M. Aubert, si ça vous tente, ce défi-là.
Alors, je dirais que c'est un grand défi. J'imagine que il y a toutes sortes d'enseignants, n'est-ce pas ? Le bon enseignant, c'est pas forcément celui qui donne de bons cours ex cathedra. Il y a des bons enseignants qui interviennent bien dans un tutorat, qui interviennent bien dans des séminaires en petit nombre. J'imagine qu'on pourrait pas demander à n'importe quel enseignant méritant de notre université de produire un MOOC simplement pour améliorer l'image de marque de l'université. Il y a là véritablement des enseignants qui ont une vocation à faire des cours qui peuvent s'adresser à un grand nombre, et il y en a, je pense, beaucoup d'autres qui ne pourraient pas faire ça.
Alors, Aliyuta Mandiang, avec l'université virtuelle africaine, vous l'avez dit, il y a la nécessité, peut-être même l'obligation de faire des MOOC. Il y a, comme le dit M. Aubert, des fois des professeurs qui sont peut-être pas, qui n'ont peut-être pas forcément envie ou qui n'ont peut-être pas forcément le don de le faire. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des échos au niveau de la qualité? Les enseignants, c'est facile pour eux de faire des MOOC ou il a fallu beaucoup travailler? Il y en a peut-être des qui renoncent. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet-là?
Bon, moi, je n'ai pas poussé ma recherche sur cela, à niveau des enseignants, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des enseignants qui ont été formés spécialement pour ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est une université comme l'université, voilà, une université normale qui est construite, qui s'appelle Université virtuelle africaine ou
et qui fonctionne.
Voilà, et qui fonctionne, voilà, avec beaucoup d'étudiants qui sont inscrits ailleurs, qui ne sont pas sur place. Il y a des enseignants qui sont sur place, qui donnent des cours, mais il y a certains enseignants aussi qui sont à distance, et qui dispensent des cours. Maintenant, pour les étudiants, ils ont la possibilité de se déplacer pour venir sur place. Ils ont mis en place ce qu'on appelle des espaces numériques ouverts. C'est des espaces où les étudiants qui ont des problèmes de connexion, pour éviter en tout cas les lacunes de connexion, entre autres, donc ils peuvent se déplacer pour venir suivre les cours au niveau de ces espaces-là qui sont créés spécialement pour cela. Maintenant, à distance aussi, si vraiment les conditions sont normales, on peut suivre les cours. Alors, les enseignants, ils sont en tout cas sur place, comme certains sont aussi...
Donc le cours a lieu avec des étudiants, mais il est en même temps accessible.
Accessible.
Okay. Je vous dis un chiffre, vous me confirmez? Il y a 40 000 diplômes qui ont déjà été délivrés par l'université virtuelle africaine.
Oui.
Donc c'est pour dire que c'est pas anecdotique.
C'est une université qui est en place avant bien des années 2000.
1997.
La création. Maintenant, c'est à partir de 2007 que vraiment elle a commencé à avoir un peu de l'importance, parce que quand le problème des effectifs commence à se poser, donc les gouvernements ont été obligés vraiment de trouver une solution de manière un peu rapide à ce problème-là. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de nouveaux bacheliers qui sont orientés dans ces universités virtuelles où ils suivent des cours. Donc c'est ça.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame.
Ces 40 000 diplômés, c'est des personnes qui ont suivi un cours ou qui ont obtenu un grade sur un bachelor en particulier?
C'est des...
Quand vous dites qu'il y a 40 000 personnes qui ont...
40 000 diplômes qui ont été délivrés depuis...
C'est un cours en particulier, un cours spécifique. Ce n'est pas un bachelor en quelque chose. Les cours, les MOOC ne sont jamais organisés autour d'un bachelor ou un master, oui.
Alors, je ne sais pas comment ça se passe avec l'université virtuelle africaine.
Bon, il y a beaucoup, ça dépend, des apprenants, parce qu'il y a beaucoup de matières qui sont proposées. Mm-hmm. Donc, certains, c'est sur 3 ans, d'autres sur 5 ans, le bachelor ou bien la maîtrise. Mais il y a beaucoup de matières qui sont proposées.
Ouais. Je pense que c'est 40 000 personnes qui ont obtenu un diplôme en suivant au moins un cours à distance. Je ne pense pas qu'ils ont tout fait. Voilà, c'est mon interprétation du chiffre, mais je ne peux pas être...
219 modules qui sont proposés au total dans le programme.
Est-ce que vous avez déjà un retour dans le sens savoir comment ces personnes s'insèrent dans le marché du travail? Est-ce qu'ils ont... faire la concurrence à d'autres personnes qui ont suivi un diplôme de la façon classique?
Est-ce qu'ils sont bien acceptés dans le marché du travail?
Ont des succès? Est-ce qu'ils trouvent un travail?
Oui, les universités virtuelles, elles ont la même vocation, c'est-à-dire elles ont les mêmes garanties que les universités classiques qui sont en place. Donc il n'y a pas de différence, en tout cas au niveau des diplômes. Donc les diplômes, se valent qu'ils soient de l'université virtuelle ou de l'université classique. Il n'y a pas de différence à ce niveau. Mm-hmm. Ouais.
Là, on parle de l'université virtuelle africaine. Je me tourne vers M. Moreau. Si je vous dis FUN, qu'est-ce que vous dites si je vous dis FUN?
FUN, c'est une plateforme de MOOC qui a été lancée par la ministre Fioraso il y a un an, le 2 octobre 2013. Donc FUN, ça veut dire... France Université Numérique. Donc
vous avez copié l'Afrique un peu. Hein. Université Virtuelle Africaine, France Université Numérique.
Oui, mais ce n'est pas moi qui décide des noms. Donc, les premiers MOOC ont donc débuté au mois de décembre-janvier. Donc, par exemple, Sciences Po Paris a proposé un MOOC autour de Bruno Latour, qui est un sociologue qui est spécialisé autour des questions urbaines. Alors, on n'a pas de retour sur FUN, donc je ne peux pas vous en parler davantage.
Moi, j'ai un chiffre.
Mais
c'était avant l'ouverture des cours en janvier, il y avait 48 000 préinscrits. Et ça rejoint peut-être une des interventions qu'on a eues sur Internet. Quelqu'un disait, c'est aussi une solution pour que des gens qui ont fini leur formation et qui sont actifs puissent revenir dans le savoir, reprendre un cursus. Et ça peut être peut-être...
Oui, parce que l'essentiel du public qui s'inscrit au MOOC est un public diplômé. Mmh. Donc ça pose, justement la question de savoir dans quoi s'inscrit un MOOC. Est-ce que ça s'inscrit dans une reprise d'études? Est-ce que ça s'inscrit dans une formation avec un dispositif à distance? Est-ce que ça s'inscrit dans des dispositifs d'enseignement hybride, présentiel ou à distance? Donc ça pose plein de questions. Et c'est vrai que FUN répond finalement à un manque en France. En tout cas, on n'a pas de plateforme unifiée qui, par rapport à d'autres pays qui nous permettait de réunir ces MOOC dans un seul site. Donc ça a au moins le mérite de centraliser une offre de formation des universités françaises en ce qui concerne les MOOC.
Je vous remercie. Des questions dans la salle? S'il n'y en a pas, je retraverse la salle, car j'ai vu qu'une question était arrivée. Alors, Didier, je ne suis pas sûr que le nombre élevé d'étudiants assistant à un cours soit un indicateur complet de l'enseignement dispensé. Donc, c'est peut-être pas parce qu'il y a beaucoup d'étudiants que le cours est bon, ça doit vouloir dire ça, mais il y a une question d'Aurore. Cette question de qualité est à mettre en lien avec la question de ce qu'on peut enseigner par le biais des MOOC. Peut-on tout enseigner? Peut-on enseigner toutes les disciplines? Ou faut-il viser des domaines de pointe? Alors, est-ce que chez nos intervenants, il y a une idée à ce sujet? Est-ce que c'est plutôt des niches, des thématiques très ciblées, ou est-ce que ça peut concerner tous les cours? Je ne sais pas qui veut s'exprimer en premier, Monsieur Felbert.
Moi, j'ai une opinion à ce sujet. J'ai l'impression que des universités de la taille de l'Université de Neuchâtel doivent proposer des MOOC, il faut se lancer dedans, mais seulement pour les domaines d'excellence qu'on ne trouve pas ailleurs. De créer une offre de MOOC pour des cours qui sont des cours assez basiques, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, dans le sens où en fait, on va entrer indirectement en compétition avec beaucoup de MOOC qui existent déjà. Donc si on a vraiment des domaines qui sont uniques à Neuchâtel, avec des professeurs extrêmement doués, qui sont reconnus internationalement, c'est l'opportunité de mettre en valeur la recherche qui est faite ici sous forme de MOOC.
Donc ciblé sur les domaines d'excellence et les domaines de pointe.
Une opinion personnelle qui n'engage
que moi. Oui. Alors évidemment, c'est moi qui établirai la liste de l'excellence. Donc, non, mais j'entends deux choses. La première chose, c'est uniquement pour les domaines de pointe. À l'université, nous n'avons que des domaines de pointe, n'est-ce pas? Et puis ensuite, l'excellence, eh bien, elle est souvent autoproclamée, n'est-ce pas? On le voit lorsqu'on fait les plans d'intention. Et puis, disons, elle peut être ressentie de manière très diverse, à l'interne, à l'externe, dans le moyen ou le long terme. Moi, je ne souscris pas du tout à ce discours.
Donc vous êtes vraiment clair, au-delà du marketing qui nous rattrape très vite, tout est excellent à l'Université de Neuchâtel, ça c'est bien connu, vous pensez qu'il ne faut pas se limiter à des domaines clés ou des domaines de pointe, il faut tout court peut être donné en MOOC, toute discipline.
Moi je pense que c'est un peu comme dans tous les domaines de l'enseignement, il y a des enseignants qui ont une vocation à essayer des techniques d'enseignement et je pense que l'université doit leur en donner les moyens. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas cette vocation-là, et je trouve que ce serait inutile de vouloir les forcer à passer par ce truchement-là. Maintenant, c'est clair qu'il y a des économies d'échelle qui peuvent être faites, et puis c'est vrai que nous avons, pour ceux d'entre nous qui sommes là depuis quelques décennies, eh bien, on a quand même remarqué qu'il y a une certaine usure de certaines formes d'enseignement, telles que le cours ex cathedra. Les cours ex cathedra, il y a 20 ans, passaient mieux qu'ils ne passent maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les supprimer, mais on peut se dire aussi qu'il y a peut-être des efforts qui doivent être faits dans des formes un peu alternatives d'enseignement. Et je pense que c'est une réflexion globale sur la demande de la part des étudiants, l'offre de la part des enseignants, et puis un marché qui pourrait être estimé, qui pourrait définir si effectivement la mise de fonds, parce que moi je ne vois pas demander à un collègue de mettre au point un MOOC sans lui donner au moins une année sabbatique avant pour pouvoir le préparer. Ça a un coût.
Oui, d'accord. Monsieur Moreau, par rapport au SUEL, à l'e-learning, vous êtes en train de mettre en place un programme. C'est ciblé sur des domaines d'excellence ou c'est
alors, toute discipline ? Ce qui me choque, c'est de parler de marché quand on parle d'éducation et d'enseignement. L'éducation et l'enseignement n'est pas un marché. Pour moi, c'est pas un marché. Alors, le problème justement de cette vision, c'est qu'elle s'inscrit dans une vision très anglo-saxonne où tout est marchandisable. Alors, on est effectivement dans une révolution numérique où la massification et l'automatisation font que l'enseignement peut devenir finalement un objet très lucratif. Je pense à Coursera notamment. Moi, je pense que justement, comme c'est un objet marketing, on doit restreindre les MOOC à des enseignements et des enseignants qui sont porteurs et porte-étendards d'un établissement. Donc, on ne peut pas faire un MOOC sur du latin médiéval si on n'a pas un enseignant qui a une réputation internationale. Voilà. On ne peut pas faire un MOOC sur des sujets trop restreints. Il faut qu'il y ait des sujets porteurs et qui soient susceptibles d'attirer l'attention d'un public international.
C'est curieux parce que vous avez un peu repoussé l'appellation de marché et là, vous parlez comme quelqu'un qui a un produit marketing.
Oui, parce que justement, c'est tout le paradoxe des MOOC. C'est à la fois un produit, mais c'est aussi à la fois une formation. Donc, c'est justement contradictoire, j'en suis bien conscient, mais c'est la nature même des MOOC.
Aliou Tamandiang demande la parole, puis après, monsieur Pachou sur la ligne.
Oui, moi aussi, c'est ça mon point de vue. C'est-à-dire que les MOOC doivent plutôt intéresser les domaines qui attirent le plus souvent les gens. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez les facultés, il y a certaines facultés qui sont saturées où la demande est plus importante. Donc c'est là où vraiment ils peuvent servir, mais pas dans des domaines où il n'y a pas beaucoup de demandes, il y a peu d'étudiants. Donc là, ça sera vraiment des charges qui ne vont pas servir à quelque chose. Mais si on utilise les MOOC vraiment dans des facultés, des domaines où vraiment il y a beaucoup d'étudiants, où la demande est très importante, surtout, comme il l'a dit, au niveau international surtout. Donc, je pense que là, vraiment, ils peuvent servir à beaucoup de choses.
Ouais. Moi, je perçois un petit danger, un petit risque dans ce qui est dit là à la table par les intervenants. C'est que si on sélectionne le savoir en fonction du succès potentiel, on devient très vite réducteur, restrictif, et peut-être qu'on va se couper du latin médiéval ou d'autres disciplines, je ne sais pas. Alors, M. Moreau, si vous voulez réagir à cette petite...
Moi, je mettrais directement la question du coût derrière. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas tellement, mais un MOOC, c'est un coût. Et je terminerai là-dessus, mais ça coûte cher à préparer. Point. Et alors, à mettre en place.
M. Pachou, sur cette thématique de quelle discipline est la plus à même, la plus indiquée pour lancer un MOOC ou pas ?
Mais moi, je rejoins assez le professeur Aubert en disant, je crois que on peut avoir certains domaines d'expertise qu'on veut vouloir mettre en avant, et le MOOC est un bon moyen de le faire. Je veux dire, quand l'an prochain, l'Université de Lausanne offrira un MOOC sur le dopage, je pense, là, il y a une expertise assez unique.
Il n'y a pas encore de date, hein, c'est en préparation.
Oui, ce sera au printemps prochain. Maintenant, on peut aussi offrir un MOOC parce qu'un professeur veut expérimenter une nouvelle pédagogie à un intérêt particulier. Puis là, je pense que ça fait partie de la mission de l'institution de lui permettre de faire cela. Puis ça peut être même pour des cours de base ou des cours préparatoires, les deux. Maintenant, je crois que M. Moreau, quand il dit que l'éducation n'est pas un marché, moi, je serais beaucoup plus prudent sur cette question, parce que je crois que, qu'on le veuille ou non, en tout cas pour toute une série de domaines, on est maintenant dans un marché, et puis une version étatique de la chose, peut-être un peu à la française, je crois, a aussi certains risques, je dirais même pour les institutions qui décideraient de l'embrasser.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? J'ai vu une suggestion intéressante qui vient d'être faite. Madame, d'abord, vu qu'on est quand même... Le café scientifique, c'est pas virtuel, on est présent, on est là.
Moi, je vois un petit danger avec la logique qu'il faut offrir des MOOC que pour les sujets là où on aura 10 000 étudiantes. Parce que, d'une façon, la beauté de ces MOOC, c'est pouvoir rassembler autour d'une classe virtuelle des gens qui sont très intéressés à un sujet très spécifique qui ne vont jamais trouver dans leur université parce qu'ils ne sont pas là. Et les 10 ou les 50 personnes intéressées dans le monde, ils sont séparés par 1000 km. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une certaine utilité qu'on pourrait donner? Bien sûr, le problème, c'est qu'on ne gagne pas beaucoup. Parce que, avec 50 étudiants, on ne gagne pas, mais on offre la possibilité à ces personnes de se former dans un sujet très spécifique.
Donc, ou des domaines de pointe très rassembleurs, ou des domaines très ciblés pour réunir le peu de personnes. C'est intéressant. C'est très intéressant. bonne remarque. Alors, par rapport au coût des MOOC, il y a une question et une suggestion. Alors, la question, c'est est-ce que les universités pourraient, vu que ça coûte cher et qu'on n'a pas forcément les talents pour créer un MOOC, et si les universités se rassemblaient pour proposer des MOOC communs, donc créer un MOOC entre deux ou trois universités sur un domaine, ça pourrait faire des économies. Hein. Et surtout, combien coûte un MOOC? Peut-être une piste. L'université de Duke a publié en 2013 un rapport à propos de son premier MOOC. On y lit qu'il a fallu environ 600 heures d'efforts, dont 11 heures de vidéo, qu'il a fallu séquencer en 12 vidéos par semaine pour un cours qui a duré 8 semaines. Donc, ça coûte cher, on l'a dit, hein, je crois que c'est M. Aubert qui a donné le prix. Une union des universités, des joint ventures pour créer des MOOC, ça vous paraît une piste ou pas? Chaque université doit garder sa spécificité. M. Felber, vous avez dit là où on est bon. Est-ce que vous verriez un MOOC commun avec une autre université? Monsieur Felber.
Juste dire un mot, je pense que je rejoins aussi ce que disait Monsieur Aubert tout au début. On peut aussi envisager qu'on crée des MOOC, mais on est aussi utilisateur de MOOC. Et on peut avoir cette combinaison en fait, d'utilisateurs pour certains cours. Soit on n'aurait pas les experts sur place, ou alors c'est des cours qui existent déjà sous une forme qui est satisfaisante pour nos étudiants, tout en faisant nos propres MOOC et combiner donc sous la même forme d'avoir une union en fait, d'universités.
D'accord. L'UNIL et les PFL, M. Pachou, ont cette fondation commune plutôt pour la formation continue. Mais vous pourriez imaginer l'Université de Genève, l'Université de Neuchâtel, de créer une offre de MOOC des universités. Il y a le triangle azur.
Oui, je crois qu'on peut tout à fait l'envisager. Évidemment, il y a certaines complexités logistiques, mais on peut tout à fait l'envisager. On voit aussi, si vous regardez l'offre, par exemple, de Coursera, ils offrent maintenant ce qu'ils appellent des spécialisations, c'est où vous faites une série de MOOC avec aussi un travail individuel qui mène cette fois vraiment à un certificat. Et là, c'est tout à fait commun de voir plusieurs universités collaborer qui offrent différents MOOC dans la même spécialisation.
C'est un petit peu ce qui se fait avec le FUN en France, la France Universitaire Numérique. Monsieur Moreau, c'est un petit peu ça, il y a quand même plusieurs universités. Ce n'est pas des créations communes, mais c'est une mise en commun des différentes.
Ce n'est pas une mise en commun, c'est plutôt une sorte de catalogue, en fait. Les mises en commun, alors, elles sont effectivement envisageables au niveau de ce qu'on appelle les communes en France, hein, donc les comités d'établissement, qui sont généralement des établissements de la même région. Donc, c'est tout à fait envisageable sur certaines formations. Alors après, effectivement, pour des formations avec beaucoup moins d'apprenants, pourquoi ne pas envisager des SPOC, donc des small open, des cours, des souks, ça s'appelle plutôt des souks, moi j'appelle ça des souks, donc small open courses et tout ça. Donc ça se fait déjà, hein. Donc il y a des formations beaucoup plus restreintes au niveau master qui se font sur le modèle des souks, avec un nombre d'apprenants beaucoup plus restreint que les MOOC.
Merci. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions dans la salle? Ah ben, il y en a une qui vient de tomber. Moi, j'en avais une, mais je la regarde pour tout à l'heure. De la part de Bernard, est-ce que les axes microtechniques et microélectroniques pourraient être un domaine d'excellence à l'échelle de l'arc jurassien franco-suisse, avec les pôles d'excellence présents en Franche-Comté? Donc, on est dans les MOOC, donc est-ce que ça rejoindrait peut-être une mise en commun des savoirs, de l'excellence du savoir microtechnique et microélectronique dans l'arc jurassien franco-suisse? Monsieur Felber, c'est peut-être un peu votre domaine, je ne sais pas. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous dites, ben oui?
Pourquoi pas, mais d'après ce que je connais de la formation microtechnique, microélectronique, il y a quand même une partie de formation pratique, d'apprentissage pratique qui est très importante. Et j'ai un peu des doutes qu'on arrive à la même qualité de formation uniquement que par l'apprentissage en ligne. Mais pour tout ce qui est théorique, certainement.
D'accord. Alors, ma question était la suivante, à moins qu'il y ait une question dans la salle sur cette mise en relation. On a évoqué Coursera, c'est plus de 400 cours en ligne. On a évoqué 219 modules pour l'université virtuelle africaine. Je ne sais pas combien il y en a pour FUN actuellement, mais il y en a plusieurs dizaines, j'imagine. Combien il y en a?
Plus d'une centaine.
Plus d'une centaine. Donc, si on fait ce petit calcul-là, on arrive à 700 cours, grosso modo, sans compter Forecast, Udacity, qui a une petite sœur de cours, etc. Donc, c'est des centaines de cours qui sont proposés en ligne. Alors, c'est vrai que quand on a une passion ou une envie de savoir, on va rechercher dans son domaine, mais comment faire s'il y a 10 cours sur à peu près une même thématique? Comment sélectionner? Est-ce que c'est le nombre d'étudiants, la notoriété du professeur? Est-ce qu'il ne faudra pas bientôt avoir des outils ou des consultants ou des conseillers en MOOC pour aider à choisir quel est le MOOC idéal? Monsieur Aubert, est-ce que ça vous paraît... Moi, j'ai regardé, hein, j'ai fait l'exercice. Il y a vraiment des cours sur à peu près tout. Et c'est vrai que si on n'a pas une idée précise, on s'y perd vite.
Oui. Donc, heureusement que ça coûte cher, les MOOC, n'est-ce pas? Parce que sinon, on serait comme dans l'industrie du livre. On aurait une pléthore et puis on aurait effectivement un problème de choix et de qualité qui supposerait un processus de sélection. Mais donc, j'aimerais revenir sur un point qui est lié. J'ai entendu tout à l'heure que un des succès du MOOC, ce serait de confier ça à des professeurs qui ont une réputation mondiale. D'abord, en principe, tout professeur a une réputation mondiale maintenant, parce que c'est plus très difficile d'avoir une réputation mondiale. Et puis, un professeur qui a une réputation mondiale n'est pas forcément un bon enseignant, parce que la réputation, elle est souvent fondée sur la recherche plutôt que sur l'enseignement. Donc, en fait, à mon avis, ce n'est pas une bonne carte à jouer, n'est-ce pas? Je pense plutôt qu'il faut choisir des bons enseignants, des gens qui sont, disons, à l'aise devant un auditoire et puis qui savent capter cet auditoire-là. Le risque, bien sûr, c'est qu'on arrive dans le format speaking de télévision et puis que tous les enseignants commencent à se ressembler. Ce sera toujours des jolies jeunes femmes ou des vieillards avec un air d'autorité. Et puis, à mon avis, ce n'est pas l'avenir de l'université.
Les autres intervenants sur ces remarques de M. Aubert et sur la nécessité peut-être de trier, de sélectionner, d'éviter... Un océan de MOOC. J'ai trouvé curieux qu'on appelle en français les flots, hein, comme le flot du savoir. Monsieur Pachou.
Oh ben, évidemment que la question se pose. Je commence pour l'instant, c'est encore pas trop le cas. Je crois que les entreprises comme Coursera font assez attention de ne pas offrir exactement deux fois le même MOOC. Maintenant, plus il y aura une prolifération de MOOC, plus la question va se poser. Il y a aussi une question intéressante qui se pose, c'est celle de la langue, hein, pour les MOOC, parce qu'on a vu que c'était une entreprise au départ essentiellement anglo-saxonne. Maintenant, il y a quand même une forte réaction des Européens. On a parlé de fun. Les Espagnols ont quelque chose, les Anglais ont quelque chose, la communauté francophone, disons certaines universités, ont quelque chose. Et ensuite se pose aussi la question de la langue. Et lorsqu'un très bon MOOC dans une langue est proposé, comment est-ce que des gens qui ne connaissent pas cette langue pourront y avoir accès? Et il y a là des réflexions intéressantes avec des systèmes de traduction.
Mais un MOOC sous-titré, ça non. Hein.
Ah, ça se fait. Hein.
Ça se fait? Ça existe?
Oui, oui.
Ça semble encore une distance de plus entre la personne qui s'exprime. Ça, c'est bon. Est-ce que, par rapport aux langues, on a parlé de l'université virtuelle africaine, là, il y a trois langues dans lesquelles les cours sont proposés, c'est juste?
Oui, les cours sont dispensés dans trois langues, français, anglais et portugais, je crois.
Oui.
Alors, parce que ça, c'est encore une fois pour donner une dimension un peu, voilà... international des cours, donc pour que ça ne se limite pas seulement en Afrique de l'Ouest, parce qu'il n'y a que deux grandes universités actuellement qui sont, en tout cas, qui sont les plus connues, c'est l'UVA de Dakar et l'UVA de Tunis. Donc, c'est les deux grandes universités vraiment virtuelles qui fonctionnent normalement.
Avec des étudiants hors africains.
Voilà, hors africains, donc qui ont la possibilité, même ici, si vraiment ils sont intéressés, il y a des possibilités pour admission, suivre les cours là-bas. Sinon, moi, les MOOC, peut-être en Afrique et ici, je pense qu'il n'y a pas la même, vision. Parce que chez nous, les MOOC, c'est pour répondre à ce besoin, c'est-à-dire à ce besoin vraiment d'enseignement supérieur. Alors, vu que les gens se sont rendus compte, effectivement, que les universités sont saturées, donc il y a urgence. En quelque sorte, c'est une solution alternative. à l'enseignement.
Ce n'était pas permettre... une option, c'était une nécessité.
Voilà, c'était une nécessité donc, que les gens ont mis en place et ça a fonctionné normalement parce que c'est un choix en tout cas qui est là. Ça permet à tout le monde donc, d'accéder à l'enseignement pour éviter encore une fois que des gens puissent rester comme ça sans pour autant avoir la chance d'aller à l'université. Ouais.
Je regarde s'il y a des questions qui viennent de l'extérieur, il faut que je sois attentif. Hein, donc c'est bon. Dans la salle, oui, il y a une intervention de monsieur.
Oui, juste plutôt une remarque. Je me souviens de mes temps d'études où j'ai eu la physique théorique et j'ai trouvé ça très bien que je pourrais prendre le même cours à peu près au Poly et à l'université en physique ondulaire, par exemple physique quantique, où il y a beaucoup de nouveaux concepts qu'on ne connaît pas quand on commence ses études et on est submergé par tous ces concepts qu'il faut assimiler tous ensemble pour finalement comprendre quelle est la théorie. Et si vous avez deux professeurs, ça vous permet peut-être de quelque chose que vous n'avez pas compris par ici, le comprendre par là. Alors je pense pour les MOOC, s'il y en a plusieurs sur le même sujet, ça peut avoir exactement cet effet-là pour un étudiant, surtout qui peut choisir le moment où il veut interagir avec un MOOC sur un sujet et puis sur le même sujet avec un autre MOOC. Voilà. Merci.
Oui, donc, Monsieur Aubert.
J'ai beaucoup apprécié cette intervention. Je pense que les MOOC doivent être aussi envisagés comme un facteur d'innovation. Monsieur Pachou a évoqué la question des langues, et je me dis, mais maintenant, on va vraiment pouvoir faire des formations bilingues ou trilingues sans passer par le broken Franglish que certains enseignants imposent à leurs étudiants. On aura véritablement accès à des professionnels qui parleront un anglais académique pour venir compléter des cours qu'on donne en français, voire en allemand, et je trouve que ça pourrait être une force extraordinaire dans l'utilisation du MOOC.
Est-ce qu'il y a des remarques sur cet aspect-là? Moi, ce que j'entends dans ce que vient de dire monsieur, c'est cet apport d'avoir deux professeurs différents pour la façon dont ils présentent la connaissance, mais ça éveille en moi aussi la question qu'on a peu évoquée ce soir de l'interaction enseignant-étudiant. Est-ce que c'est juste la transmission du savoir? Est-ce qu'on envoie en ligne? Est-ce qu'on lit un livre et on le diffuse et on dit voilà, c'est un MOOC? Mais qu'est-ce qui peut remplacer le contact direct? M. Felberg évoquait les étudiants qui vont à la fin du cours vers le prof, qui posent de petites questions, qui interagissent. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose quand même de primordial, et heureusement, et qui fait aussi que l'université n'est pas menacée par les MOOC? Parce que si on suit l'exemple de l'Université virtuelle africaine, qui a du succès, hein, qui permet de résoudre un problème, plutôt que de construire une université parce qu'on n'a pas le temps ou pas les moyens, eh ben on a fait une solution parallèle. Donc, est-ce que, là on parle de MOOC en théorie, mais est-ce que le côté vraiment pratique, au quotidien, du contact du professeur et des élèves, ça, est-ce qu'on l'oublie pas un peu ce soir? Monsieur Felber.
Ça permettrait peut-être d'avoir plusieurs enseignants. Quelques enseignants virtuels en ligne à travers les MOOC et puis un vrai enseignant sur place dont on suivrait le cours, auquel on irait poser des questions à la fin du cours. Donc ça pourrait tout à fait être vu en combinaison MOOC et cours traditionnels ex cathedra.
Je ne sais pas s'il y a un autre intervenant qui veut s'exprimer sur...
Oui, moi j'avais envie de dire mais que rien ne peut remplacer l'expérience sur le campus, que ce soit l'interaction avec le professeur ou les autres.
Ou entre étudiants.
Ou entre étudiants, justement. Parce que je crois que lorsque quelqu'un fait ses études, bon, le savoir qu'il va acquérir, c'est une chose, mais il y a aussi toute l'expérience sociale, humaine, et rien ne peut le remplacer. Je crois que c'est une erreur de réfléchir en termes, de se dire, mais est-ce que le MOOC va remplacer ça? Puis c'est trop souvent, je crois, cette question qui revient, et je pense que c'est pas la bonne.
Je vous remercie de dire que je ne pose pas les bonnes questions, mais ce n'est pas grave, je vous pardonne. Donc, il n'y a pas de questions sur Internet. Est-ce qu'il y a une autre intervention dans la salle ou un des intervenants qui veut s'exprimer sur cette question-là? Oui, M. Bonvaux.
Moi, j'abonde dans ce qu'ont dit les intervenants précédents. Il y a un enseignant de l'Université de Louvain, donc Marcel Lebrun, je ne sais pas si certains le connaissent, qui est très impliqué justement dans tout ce qui est... classe inverse, etc., qui lui pose de façon excessive l'idée que les campus ne seraient plus que des fermes de serveurs informatiques et les échanges se feraient totalement par le biais du numérique, des outils numériques. Donc, in fine, c'est vrai que peut-être que les MOOC vont avoir une influence plus profonde qu'on ne le pense sur le rôle des campus.
même si ça ne le remplacera pas, je pense qu'il y aura un changement de nature, en tout cas des campus, en étant peut-être moins un cadre de vie, un cadre de relations entre enseignants, et peut-être plus une sorte de, je dirais pas de soutien technique, mais de centre de soutien sur des problèmes précis. Par exemple, peut-être des réunions de pré-rentrée sur les MOOC ou des questions sur des points particuliers qui sont traités à l'intérieur du MOOC dans le cadre d'un cours. Donc peut-être que justement il y aura un changement de mission du campus.
Mais est-ce que vous le voyez comme un progrès ou comme un appauvrissement à mesure qu'il y aura moins d'échanges, moins d'interactions?
Tout dépend de la place qu'on accorde à la technique dans les rapports humains. Donc pour moi, justement, c'est, moi j'estime que c'est les rapports humains qui prévalent. Donc le numérique, je ne pense pas que les MOOC, sincèrement, remplacent totalement tous les cours. Je pense que c'est plutôt des compléments ou des suppléments, comme on l'a vu, mais... c'est vrai que ça pose certaines questions, donc, mais je pense qu'il n'y a aucune université qui, pour l'instant, qui a encore fait le choix de totalement dématérialiser ses formations. Donc voilà, mais je pense que c'est l'humain qui doit prévaloir. Bon, et c'est vrai que les rapports entre enseignants et des étudiants sont différents par le biais du numérique.
Oui. Une intervention de monsieur dans la salle.
Oui, je crois qu'il n'y a pas seulement un type d'étudiant, mais il y a différents types d'étudiants. Je puise de nouveau ce temps où j'ai fait mes études, parce que c'est là où on s'applique là, à cette question, qui s'applique à cette question. Donc il y avait au fond trois possibilités. C'est le professeur A au Poly, le professeur B à l'Uni, et puis le livre de monsieur professeur Sommerfeld, tout le monde le savait, c'était le meilleur cours sur la physique théorique à ce moment-là. Donc, il y avait des étudiants qui n'allaient jamais dans le cours, même du prix Nobel Pauli, parce qu'ils lisaient le Sommerfeld, et puis finalement, ils faisaient leur examen tout aussi bien, et puis il y avait d'autres qui suivaient Pauli, qui écrivaient un peu en rond, quoi. Et puis, il y avait les troisièmes qui préféraient Heitler, parce qu'il était un peu dur, mais il expliquait mieux. Donc je pense que la nouvelle université, elle existe depuis 50 ans, c'est-à-dire le MOOC qui va amener de nouveau un choix de plus, ce qui va faire que des étudiants avec des manières d'apprendre pas tout à fait identiques pourront choisir leur canal pour apprendre qui est le plus approprié.
Pour autant que le MOOC reste un complément d'un cours traditionnel, c'est ça. Donc c'est peut-être sur cette question-là, est-ce que le MOOC peut être admis et soutenu à mesure qu'il ne met pas en péril et qu'il vient en complément, en parallèle. C'est ce que disait la rectrice d'université dans une récente interview, hein, qu'elle le voyait surtout comme un outil en marge pour soutenir et aider, mais pas comme un enseignement en soi. Monsieur Felbert, oui, sur cette question ?
Moi, je pense que c'est la bonne manière de voir les MOOC. Ouais. Il y a différents niveaux de MOOC. Je pense qu'on parle de différentes choses. Il y a des outils d'apprentissage en ligne qui sont plus ou moins sophistiqués. Il y a des manières d'enregistrer les cours. Alors, c'est déjà utilisé à Neuchâtel. Il y a plusieurs professeurs qui enregistrent leurs cours, qui les mettent à disposition des étudiants pour qu'ils les voient par la suite. On a des masters communs avec des universités voisines. On utilise ce genre d'outils. On utilise des plateformes comme Moodle pour... repasser ses cours ou pour faire un suivi des étudiants. Et puis il y a les MOOC qui se destinent vraiment au grand public international. Alors je pense qu'en faisant une combinaison correcte de choses qui sont des nouvelles technologies avec combinées avec l'apprentissage classique, on a déjà un grand avantage par rapport à l'existant. Ensuite, si on veut se lancer dans les MOOC du type Coursera, c'est une autre question. Mais en tant que complément, je pense que c'est vraiment l'approche qu'il faut, en tout cas dans un premier temps, essayer de suivre.
D'accord. Est-ce qu'il y a des... Oui, monsieur Patrick Vincent.
Je suis tout à fait d'accord que le MOOC doit rester un complément au campus, mais comment convaincre les élus et les personnes qui élisent ces élus, le peuple, si on veut bien le dire, que le campus reste essentiel? Aux États-Unis, en ce moment, il y a tout un débat sur l'inutilité du campus. Les étudiants payent 30 à 50 000 dollars pour ne rien apprendre. Et maintenant, en plus, ils ne trouvent pas de travail en sortant des universités.
Et je crois qu'il n'y a que 30 à 40% d'étudiants américains qui finissent leur...
Qui finissent, en plus. Il y a un gâchis pas possible. Et on dit que dans 10, 20 ans, il restera peut-être 10 à 20% des universités. Et toutes les universités moyenne gamme ou des universités d'État ou des petites universités disparaîtront à cause de cette concurrence déloyale, en quelque sorte, des MOOC. Donc comment convaincre ou comment affronter ce défi qui est un vrai défi, je crois.
J'avais le mot piège en tête tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'un piège qu'on voit un peu comme la souris qui voit le piège, qui se dit « mais je vais quand même aller prendre ce fromage, ça va être parfait ». Puis quand on est dedans, le piège se referme. Et c'est vrai que, vu les pressions économiques sur l'enseignement, sur les hautes écoles, notamment en Suisse, j'imagine qu'en France, je ne sais pas quelle est la situation, mais j'imagine que c'est aussi le cas, la concurrence exacerbée dans les pays anglo-saxons entre universités, est-ce qu'on n'est pas un peu naïf de parler des MOOC en disant « c'est parallèle, c'est un petit plus, c'est un petit complément », alors que peut-être pour certains, à Berne ou au château de Neuchâtel, on en est déjà à se dire, ben on va pouvoir enlever ces 6 cours-là, ça sera 30 000 francs par cours, mais pendant 5 ans, on est tranquille, et qu'à terme, ben, on aura un campus qui va se réduire comme peau de chagrin, et on se dira peut-être dans 15 ans, on avait fait un café scientifique, puis on n'avait rien vu venir. Monsieur Aubert.
Moi, je pense que vous posez bien la question. C'est une question politique, et puis on aura ce qu'on voudra bien payer. Mais j'aimerais rappeler qu'il y a une quinzaine d'années, la Confédération avait mis sur pied des programmes de campus virtuels, n'est-ce pas ? Et puis Neuchâtel, par exemple, nous avions participé, je crois, à plusieurs campus virtuels, mais plus particulièrement à ce qu'on appelle le Latinum Electronicum, qui était, disons, une manière d'enseigner les rudiments du latin que les gymnasiens n'avaient plus quand ils arrivaient à l'université, avec un cours interactif qui était assez ingénieux, qui était là aussi trilingue, voire quadrilingue, puisqu'il était fait en collaboration avec les universités de Bâle, de Zurich et de Lugano, et puis qu'il devait voir une traduction anglaise à un moment donné. C'était un cours, je parle du néolithique supérieur en termes de MOOC, n'est-ce pas ? C'était un cours qui était quand même assez interactif, puisque les étudiants qui l'utilisent encore maintenant, 15 ans après, eh bien, peuvent faire des exercices sur la base de textes d'auteurs latins, donc tous les exercices sont faits sur la base d'auteurs latins, qui peuvent être autocorrigés et avec des explications. C'était ingénieux, c'était les informaticiens, je crois, de Bâle qui avaient réussi à mettre au point un logiciel, mais donc on avait un outil qui aurait permis, il y a déjà 10 ans, de dire « mais on supprime les cours de latin fondamental ». Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le latin fondamental, qui était relativement mal vécu il y a 30 ou 40 ans, est de mieux en mieux vécu parce qu'il est de mieux en mieux enseigné grâce aux outils qu'on met à disposition et au talent des collègues qui enseignent.
Oui. Est-ce qu'un autre intervenant veut s'exprimer sur cette question-là de l'avenir ou de la menace que représentent les MOOC ? Oh, pardon. Alors, il y a plusieurs remarques qui sont venues, outre l'éventuelle marchandisation, merchandising, un risque de standardisation et d'impérialisme culturel pourrait appauvrir la diversité des enseignements ? Non, point d'interrogation. Donc oui, ça c'est une question qui se pose. Je vous lis aussi la suivante, puis on verra qui veut intervenir. Le MOOC est un complément avec aussi un gage de qualité. Il peut donc apporter une source nouvelle d'enseignement en donnant la garantie aux étudiants qu'il s'agit d'une source fiable. C'est vrai qu'il faut cette garantie, c'est un petit peu la reconnaissance du MOOC. Mais peut-être d'abord sur l'appauvrissement de la diversité des enseignements. Est-ce que ça, c'est une autre menace que font peser les MOOC ? On a parlé de standardisation du savoir. Si tout le monde suit le même cours de latin médiéval, il n'y aura pas la diversité qu'évoquait monsieur aussi avec plusieurs professeurs, plusieurs approches, plusieurs explications. Donc est-ce qu'il n'y a pas là un risque de... À moins qu'on ait 3 MOOC sur le même thème. Donc, je ne sais pas. Oui, monsieur.
Moi, je pense qu'évidemment, s'il n'y a plus qu'un seul cours d'histoire générale et puis qu'il est développé par un professeur des États-Unis, par exemple, évidemment que ce sera une vision américaine de la chose. Quelqu'un me disait une fois avoir suivi un cours sur un cours d'histoire et il mentionnait, je crois que un MOOC, hein. Il mentionnait que je crois que sur toutes les personnes qui apparaissaient dans ce MOOC, des personnages historiques, il y avait une seule femme, je crois, qui était mentionnée. Et donc, c'était une vision enfin, voilà, très, très masculine de l'histoire. C'est, bon, c'est anecdotique, mais c'est un exemple. S'il existe uniquement ce cours-là, évidemment qu'il y a un risque d'appauvrissement.
Il y a une question qui vient d'arriver. Comme dans un écosystème biologique, l'appauvrissement par l'uniformité. Un MOOC type pour un sujet. Ce serait courir au désastre. C'est aussi motivant de chercher à produire le MOOC le plus complet, le plus abouti. Ça, c'est sur les défis d'innovation, on en a parlé tout à l'heure. Alors, il y a les risques, il y a ce côté piège. On ne vous a pas tous entendu sur le piège qu'on ne voit peut-être pas. Par rapport à l'université virtuelle africaine, on sait que c'était pour répondre à un manque de place sur les campus, manque de classe, manque de matériel. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu résister et exiger la construction de nouveaux campus et de nouvelles universités ? Est-ce que le risque, ce n'est pas qu'on se retrouve en Afrique avec plus d'universités parce que le système d'université virtuelle va assez bien ? Est-ce que ça vous peinerait ?
Oui, c'est le mieux, c'était quand même de construire effectivement d'autres lieux. Universités vraiment qui répondent aux normes. Mais comme je l'avais dit tantôt, c'est-à-dire il n'y avait pas aussi le temps voilà, il n'y avait pas de temps pour pouvoir faire cela parce qu'une université, bon, ça se construit pas aussi rapidement et malheureusement aussi, c'était pas planifié parce que plutôt. Voilà, donc c'est venu comme ça. Les gens font face à cette incapacité de pouvoir gérer la masse d'étudiants. Donc il faut des solutions. Et quelle est la solution qu'il faut faire? Effectivement, c'est mettre en place ces cours en ligne, au moins pour avoir le temps de construire plus tard d'autres universités. Ouais.
Est-ce que des projets ont vu le jour pour des nouveaux campus, pour agrandir, en parallèle à la création de ces MOOC?
Bon, chez nous, au Sénégal, bien sûr, le nouveau gouvernement a un projet de construction d'universités régionales. Donc, c'est des universités qui seront parfois des universités thématiques, je pense que c'est ça qu'ils ont dit. Donc, c'est des projets qui durent. Donc, c'est des projets qui durent sur 5 ans, voire 10 ans. Donc, là, c'est un problème. Et chaque année, il y a des milliers de bacheliers qui viennent. Avec un besoin de formation.
Il faut...
Mais quand même, les projets, ils sont là, ils sont annoncés, mais le problème, c'est l'exécution à temps pour éviter ça.
En tout cas, pour ce qui est du Sénégal, les MOOC et le développement des MOOC n'a pas coupé ou arrêté le processus de créer ou de construire de nouveaux campus, si je vous entends bien.
Bon, ça a ralenti en tout cas, ça n'a pas arrêté, mais sans doute ça a ralenti, parce que comme ça marche avec les universités virtuelles, donc on se dit pourquoi ne pas régler ça, mais quand même ça a ralenti un peu.
On le sent le piège là.
Ouais.
Okay. Oui, monsieur.
Ouais, une question aux historiens, moi je ne suis pas historien. Il y avait les universités avant l'invention du livre imprimé où on pourrait faire 1000 copies. Facilement, et les universités après. Alors, si les gens ont peur que les MOOC vont faire disparaître les universités, il faudrait poser la question aux historiens, comment est-ce que les universités ont survécu l'invention du livre? Voilà, merci.
Bonne question, on a des historiens. Alors, monsieur Moreau, peut-être?
Ce serait plutôt les abbayes, comment ont-elles survécu à l'invention du livre alors qu'il y avait des copistes dans les abbayes? Ce serait plutôt ça. Plutôt que les universités. Mais le problème, c'est de savoir si les universités veulent vraiment s'investir là-dedans, parce qu'il y a d'autres acteurs dans la production et la création de MOOC. Moi, je pense que l'université a encore un rôle à jouer justement dans l'enseignement, dans le monde. Les besoins sont énormes, notamment dans les pays du Sud, les pays émergents, l'Inde, la Chine, l'Afrique. Et je pense que justement, les universités ont ce rôle de passeur de savoir, d'un corps qui permette justement aux étudiants de se former, mais aussi d'acquérir un réseau de connaissances, de s'ouvrir au monde, parce qu'on n'est pas tout seul sur cette planète. Et donc, les MOOC là-dedans, si on se cantonne à un rôle de complément ou de supplément, permettent tout à la fois d'être, justement, d'avoir une ouverture à l'extérieur, donc de suivre des cours d'autres pays, mais aussi, de valoriser d'autres compétences qu'on pourrait acquérir à l'université. Donc en fait, il y a aussi un rôle complémentaire. Donc bon, là-dessus, je suis pas très critique, c'est vrai, mais la question des MOOC, ça doit s'envisager sur plusieurs niveaux. C'est une question qui est très complexe finalement. on a l'impression que c'est simple, on va faire un MOOC et on va le diffuser, et puis hop, ça va valoriser l'université ou un enseignement, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants qui se rejoignent dans cette question.
Monsieur Aubert, sur le côté historique, est-ce que c'est un processus qui se répète en fait ?
Alors, disons, l'enseignement ne dépend pas des MOOCs, pas plus qu'il ne dépendait du livre. Si on pense aux premières formes d'enseignement supérieur, qui était l'école philosophique en Grèce, eh bien, je suis sûr que devant un audit d'une assurance qualité, eh bien, l'école platonicienne aurait eu un très bon score, n'est-ce pas ? Maintenant, évidemment, c'était une école qui ne coûtait pas grand-chose puisque les enseignants n'étaient pas payés et puis il n'y avait pas de salle de classe. Donc on pourrait dire que ça devrait être le modèle qui retient l'attention de nos politiciens. Mais ce n'est évidemment pas le cas. Mais j'aurais voulu dire quelque chose que j'ai sur la langue depuis un petit moment, c'est que le MOOC, c'est comme le livre. Il y en a des bons, puis il y en a des mauvais, n'est-ce pas ? Et puis qu'il y aura un marché qui saura peut-être faire le tri, et puis qu'il y a des consommateurs qui achèteront des mauvais MOOCs comme ils achètent des mauvais livres, avec la certitude que c'est des bons MOOCs ou des bons livres. Et puis tant mieux pour ceux qui vendent les mauvais MOOCs, et puis tant pis pour ceux qui les consomment.
S'il y a Oui, une question, une intervention de M. Lassalle.
Oui, j'avais un petit moment, bon, le débat est maintenant rentré un petit peu dans les rails, mais j'ai eu un peu peur à un moment donné qu'on confonde en fait le savoir avec le véhicule du savoir. Et je crois qu'effectivement, vous l'avez dit, monsieur, devant moi, au fond, c'est le même débat qu'avec le livre. Hein, donc, et la question, ce n'est pas tellement celle des abbayes, mais plutôt du contenu des livres. Et ça, je crois que ça a été mis en évidence de manière assez claire. Pour moi, le vrai débat qu'on n'a pas tellement abordé ce soir, c'est la première lettre de MOOCs, hein, c'est massif. Parce qu'au début du débat, j'entendais des gens qui se plaignaient à la fois du fait qu'il y avait beaucoup d'inscrits et peu qui terminaient. Mais à l'époque d'Internet, massif, ça signifie que même s'il y en a relativement peu qui terminent, il y en a quand même beaucoup plus probablement que ceux qui ont assisté au cours dans un auditoire. Et en fin de compte, le vrai débat, c'est celui de l'accès au savoir. Et ça, ce sont les interventions de M. Tianbian Deng qui l'ont bien mis en évidence. Il y a des endroits dans le monde, et y compris chez nous, où cet accès n'est pas si facile. À ne pas confondre avec le débat qu'il y a aux États-Unis ou dans certains autres pays de l'accès à des universités peut-être pas forcément qui n'offrent peut-être pas ce qu'elles devraient offrir, et qui coûtent par contre beaucoup plus que ce qu'elles devraient coûter. Ce qui est un débat qu'on n'a pas vraiment, heureusement, en Europe continentale. Donc il faut peut-être sortir un petit peu de cette peur. Dernier point, qui n'a dans Massif aussi, c'est la question de la mobilité des étudiants. Quand vous avez des gens qui participent à un MOOC, on a leur adresse email à la fin. Quand vous savez ce qu'ont investi les universités suisses aussi pour aller faire du scouting pour les bons étudiants à l'étranger, en Chine, etc., ailleurs, aujourd'hui avec les MOOCs, certaines choses sont simplifiées. Il ne s'agit pas de faire de la fuite des cerveaux organisée, mais il s'agit de sélectionner en fait les élèves ou les étudiants les plus méritants pour leur donner une chance aussi d'étudier dans nos universités. Ça, c'est un aspect qui est tout à fait fondamental.
Oui, alors M. Pachou qui souhaite réagir.
Ça a plutôt illustré les propos de monsieur quand on parle de massif et puis d'accès au fait au savoir. Juste avant de venir ici, j'ai regardé les derniers chiffres d'inscription pour un MOOC qui débutera la semaine prochaine sur l'éthique des affaires. Donc je pense que peu de personnes ici diront que l'éthique n'est pas un sujet important. Alors c'est vrai que la notion d'inscrit pour les MOOC, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que s'inscrire, c'est un clic et puis voilà. Et puis beaucoup de gens arrêtent en route. Mais c'est juste intéressant de voir ces chiffres, donc à prendre avec des pincettes. Mais il y a par exemple 35 600 inscrits à ce jour. Ils proviennent de 192 pays. Il y en a 33%, donc un tiers, qui viennent de pays en voie de développement, et notamment 23 qui viennent d'Asie. C'est juste pour illustrer les propos, mais ça va dans le sens de dire qu'il y a quand même accès à un savoir important.
Gratuit,
voilà. Des gens qui sont prêts à payer. Donc, c'est un cours où on paye en $49. On peut avoir le certificat. Pour l'instant, il y en a 40. Donc.
Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce que vous venez de dire, monsieur. Il y a le savoir, il y a le véhicule du savoir, puis il y a le pilote de la locomotive. On vit dans une société du business, de l'argent à tout prix. Et on sait à quel point les gens du marketing, de la publicité et des investisseurs sont devenus très forts pour tirer les marrons du feu. Comment faire pour les hautes écoles, les universités, les détenteurs du savoir, comment s'assurer de ne pas être dépossédé du savoir à mesure où Coursera ou une autre plateforme pourrait tout à coup commencer à sélectionner les cours qui marchent et qui rapportent, ou alors à angler les savoirs sur l'histoire américaine plutôt que sur l'histoire européenne. Donc comment faire dans cette masse de cours qui sont pour l'instant très accessibles, si ce n'est pas gratuit, mais en tout cas des prix très modiques, pour s'assurer que dans les années qui viennent, tout à coup, on n'ait pas un savoir qui devienne vraiment une monnaie chère, trop chère, inaccessible au niveau du coût, ou alors sélectionner et trier, et que les détenteurs ne soient plus les universités, les hautes écoles, entre guillemets, les garants, les détenteurs du savoir. Je ne sais pas, Monsieur Aubert, est-ce que vous avez...
J'ai pas beaucoup de craintes, je dois dire. Je crois que la situation est tellement complexe qu'il n'y a aucun marché qui pourra s'emparer du marché des universités. Il ne faut pas oublier non plus que les entreprises privées qui produisent des MOOC, ben je pense à The Teaching Company qui est devenue Great Courses maintenant, fait toujours appel à des universitaires pour les produire, n'est-ce pas ? Et que quelque part, bien, ils valorisent aussi un tout petit peu le travail des universités, pas seulement individuellement sur la personne qui donne le cours, mais sur le fait que dispenser le savoir, si ce n'est pas fait par un universitaire, eh bien, ça n'a pas la même garantie. Et nous n'avons pas un monopole du savoir à l'université.
Mais alors maintenant, je repose la question, en tenant compte de cet argument, une plateforme qui voudrait vraiment faire beaucoup d'argent engagera le professeur qui est le meilleur showman, le meilleur pédagogue, le meilleur spécialiste, et pourra vendre éventuellement très cher son cours pour faire de l'argent, et ça réduit l'accès au cours de ce professeur.
Oui, mais il y a des universités qui ont beaucoup de moyens et puis qui peuvent faire monter les enchères. Je peux imaginer qu'il y a un moment donné où ça devient des prix absurdes et que personne ne les mettra.
D'accord. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle ou un autre intervenant qui veut s'exprimer sur cette question ? Oui.
Moi, je veux parler un peu de... C'est-à-dire, les MOOC, selon moi, quand on parle des MOOC aussi, il faut peut-être penser au public qui est visé. Mm-hmm. Et ça, c'est très important parce que le public, c'est généralement les personnes qui ne peuvent pas surtout venir à l'université, c'est-à-dire les travailleurs, ainsi de suite, les personnes âgées, les personnes infirmes, ainsi de suite, parce que c'est ça qui est important. Parce qu'avec cette offre de MOOC, tout le monde maintenant peut rester chez soi et poursuivre ses études.
Donc, ça élargit la palette.
Voilà, parce que les MOOC aussi, l'enseignement supérieur aussi, parfois, c'est un désir aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui ont envie de pouvoir étudier dans un domaine, donc ça peut aussi répondre à ce besoin. Ouais. C'est pourquoi vraiment c'est important, en tout cas, que le système soit en place.
Aussi penser à l'ouverture sur d'autres publics. On a une réflexion sur les technologies de l'information et de la communication pour favoriser le rapprochement de formation d'enseignement supérieur va être mise sur pied prochainement dans le cadre de la Communauté du savoir de l'art jurassien franco-suisse. Le groupe de travail sera multi-partenaire. On a tous les intervenants, dont les hautes écoles, l'Université de Neuchâtel, la Haute École Arc. Des financements européens pourraient être levés pour un projet pilote. C'est un commentaire de la part de la Communauté du savoir qui a rendu possible ce webinaire sur les MOOC. On voit qu'il y a des unions qui se déroulent et puis qu'il y a toute une réflexion autour. Est-ce qu'il y a une intervention, une question dans la salle ? On approche de la fin. S'il n'y a pas de questions, j'aimerais demander à chacun de nos intervenants une brève conclusion en nous confirmant ou en modifiant éventuellement leur note de départ sur les MOOC. On commence par vous, Monsieur Pachou. Est-ce que vous maintenez votre 8, 8,5 ? Je ne m'en rappelle plus, 8,5. Hein.
8,5.
Maintenu ?
Pas oublier le demi. Oui, je le maintiens. Je dirais que le futur des MOOC, il est incertain, on l'a vu aujourd'hui, mais qu'une chose est sûre, c'est que ça a joué un rôle de catalyseur et puis que ça a amené vraiment un débat sur aussi l'enseignement au sein des institutions académiques.
Monsieur Moreau, vous aviez mis la note de 4. Est-ce que vous maintenez votre 4, alors, sceptique ou prudent en tout cas ?
Je monte à 5 et je dis à manipuler avec précaution et je dirais ce mot... Bernard Stiegler a un terme qui est très juste pour parler justement du numérique. C'est un pharmacone, ça peut être un remède autant qu'un poison. Donc, à utiliser parcimonieusement.
Et avec prudence. Monsieur Aubert.
Merci pour la référence grecque. Moi, je garde un 8, mais j'enlève le qualificatif de politique.
D'accord.
Alors moi, je monte aussi ma note, à 6, disons. J'ai eu l'impression que la discussion était très constructive. J'ai eu une vision finalement un peu plus saine, un peu moins... j'ai l'impression que les dérives que je craignais au début ne vont pas être concrétisées, en tout cas avec les personnes qui sont autour de moi. Donc je monte ma note d'un point.
Vous étiez à 5 et vous êtes monté
J'étais à 5, je monte à 6.
D'accord.
6,5.
Donc il y a quand même deux participants qui ont gagné. Monsieur...
Bon, moi, j'avais donné, je pense, la meilleure note. Donc 9, effectivement. Parce que les MOOC, selon moi, vraiment, c'est même réclamé par les universités aujourd'hui. Parce que l'université doit, je pense, répondre à ce besoin d'enseignement supérieur des gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter seulement à ceux qui ont la possibilité de pouvoir venir dans les facultés. Donc l'université doit toujours être là pour tout le monde, quelles que soient les conditions, mais aussi les différents âges et aussi... je ne sais pas, c'est-à-dire la condition sanitaire surtout. Donc, avec les MOOC, ce sera vraiment une solution de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Ouais,
d'enseignants supérieurs. Presque une responsabilité des universités d'utiliser cet outil.
Oui.
Quasiment.
Ouais,
c'est vraiment... Juste un mini-sondage. On ne va pas vous demander à chacun votre note sur les MOOC, mais dans la salle, les participants... qui ont eu une perception qui s'est améliorée, qui voient les MOOC de façon plus positive maintenant par rapport à leur position au début de ce café scientifique. Alors, qui a amélioré sa perception des MOOC pendant cette soirée? Juste voir, 1, 2, 3, 4, 5. Qui a une image plus négative des MOOC au bout du débat? Personne. Et qui, ben les autres, vous êtes restés sur la même position, en fait. Donc, il y a quand même 5 des participants à ce café scientifique qui perçoivent les MOOC de façon... moins négatif, donc plus positif, comme deux des intervenants à ce débat. Il est 19h30, donc c'est l'heure à laquelle ce café scientifique s'achève. Je pense qu'on peut les applaudir, parce que moi, j'ai personnellement beaucoup senti de réflexions et de choses très positives. Donc merci pour la qualité de vos interventions. On peut les applaudir, je crois. Hein. C'était sympa, bravo. Et donc, c'était le premier café scientifique de la rentrée. Il faut que je vous donne la date et le thème du prochain, qui aura lieu le 22 octobre. Famille, le lieu de tous les dangers. Alors bientôt peut-être un MOOC sur la famille dans tous ses états. C'est ici même le 22 octobre. Merci d'avoir été ici ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à, j'ai plus tous les noms, mais Aurore, Vincent, Marc Brio, qui ont participé avec nous à distance. C'est un petit peu ça, les MOOC aussi, hein, c'est cette interactivité-là, donc on peut apprécier ou pas, mais en tout cas, ça existe. Merci à tous, puis bon retour chez vous, et merci encore une fois à nos intervenants.